Merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette dernière session. Effectivement, on va devoir faire un petit peu rapidement, donc je vais introduire très brièvement nos deux intervenantes de ce dernier panel. Nous allons nous intéresser à la contestation de ces manques, parce que tout au long de cette journée, le constat a été dressé des multiples absences, occultations, de formes et de significations très diverses qui peuvent atteindre les patrimoines au sens large, matériel et immatériel, dans le temps long ou de manière abrupte à l'occasion d'événements traumatiques. Et maintenant, il va être plus directement question des stratégies qui peuvent être déployées pour aller au-delà de l'absence ou résister au manque, même si ça a été le fil rouge de toute la journée. Deux exemples maintenant. Anne-Claire Bourgeon, vous êtes chartiste, chef du service des archives publiques aux Archives de Paris depuis 2022. Après avoir été responsable de la collecte et du traitement des fonds aux Archives nationales du monde du travail. Et vous allez nous parler des archives produites dans le cadre de la politique d'accueil et de gestion des sans-papiers et nous montrer comment la politique de collecte des archives produites dans ce cadre informe et déforme la perception et la compréhension de ces politiques et leur documentation pour l'histoire. Annabelle Alouche, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Picardie Jules Verne. Sociologue de l'éducation, vous êtes spécialiste des questions liées à l'accès à l'enseignement supérieur dans une perspective comparatiste, notamment par rapport au monde anglo-saxon. Et vous vous intéressez actuellement plus spécifiquement à l'architecture universitaire et vous allez nous parler de la maison des examens d'Arcueil et des raisons de sa non-patrimonialisation. Anne-Claire, bonjour.
Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs et organisatrices déjà d'accepter cette proposition et aussi d'avoir essayé de maintenir le planning chargé de la journée pour les dernières intervenantes. C'est toujours agréable et merci à ceux qui restent dans la salle, même si ça fait déjà toute une journée que vous êtes là. Donc, je vais en effet parler d'une politique de collecte qui a débuté récemment aux Archives de Paris sur l'accueil et la gestion des migrants en Île-de-France. Je vais commencer tout de suite par quelques chiffres. Ce sont des chiffres tirés de l'étude très récente de l'INSEE qui est parue le 30 mars dernier. Vous avez dû, je pense, voir passer quelques articles à ce sujet dans les différents médias. C'est une étude intitulée « Immigrés et descendants d'immigrés en France ». Donc, ce sont surtout des chiffres, mais très intéressants. Donc, je vous le dis, c'est à l'écran. En 2021, 7 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,3% de la population totale. C'est un chiffre très important et qui me fait penser, notamment en termes de légitimité et de rapport à l'État, à la table ronde du début de l'après-midi. Là, j'ai inversé les chiffres par rapport à l'INSEE. 64% d'entre eux n'ont pas obtenu ou n'ont pas souhaité obtenir la nationalité française. Donc, tout ce qui est archives de l'État civil, qui sont les premières traces que l'on peut obtenir sur n'importe quel citoyen en France, une partie qu'on n'aura pas à propos des migrants. Je vous ai mis à droite le graphique de l'étude de l'INSEE. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ça représente d'une part la population immigrée, d'autre part la part de la population immigrée au sein de la population française. Donc, c'est assez clair, hein, le graphique. On comprend que ça n'a pas cessé de croître, la part des immigrés au sein de la population française. Ces chiffres, ils sont d'autant plus intéressants pour Paris et pour la région parisienne. C'est un enjeu primordial pour l'histoire du territoire. On parle souvent dans des sujets qui sont abordés, les axes de collecte au sein des PSCE ou des PSC, hein, dans les services d'archives, d'avoir des traces concernant l'histoire du territoire et des personnes qui y habitent. Donc, 40% des immigrés vivant en France résident en Île-de-France. C'est un chiffre qui remonte à 2013 pour rappeler à quel point cette région-là est touchée et impactée par ce phénomène. Fort de ce constat, les services d'archives de la région Île-de-France ont bien acté que ça devait être un axe important au sein de leur politique de collecte et surtout qu'il fallait absolument qu'il y ait des fonds qui documentent ce phénomène, autant pour l'histoire que pour répondre aux attentes futures des usagers au sein des salles d'archives, qui est donc notre objectif premier, hein, répondre aux attentes des usagers. Pour essayer d'avancer sur ce projet de collecte, une première étude, une première analyse était indispensable. C'est une mission qui a été confiée à Pierre Marchandin, qui était à l'Institut national du patrimoine il n'y a encore pas si longtemps que ça, et qui a effectué son stage de spécialité aux Archives de Paris en 2020, qui a rendu un rapport, la collecte des archives relatives à l'accueil et à la gestion des migrants en Île-de-France au XXIe siècle, bilan et perspectives. Je vous ai mis la couverture à droite. L'étude est assez dense, mais si vous voulez, il y a un article rédigé aussi par Pierre qui est paru dans la Gazette des Archives en 2022, qui est assez synthétique et qui porte déjà donc les conclusions de cette étude. Moi, je suis arrivée en poste après cette étude et pour mettre en place, entre autres, cette politique. Je vais parler entrer un petit peu dans le détail de son rapport. Alors, l'objectif n'a pas été de faire un état des sources assez classique hein, des différents fonds d'archives au sein des services d'archives d'Île-de-France. Il a adopté une approche par fonction, par thématique, si vous voulez, qui a pris aussi en compte la diversité des producteurs. Donc, ce panel-là qui est expliqué à l'écran rassemble ces différentes thématiques, l'administration et la surveillance des migrants, l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés, l'accueil, l'intégration et la lutte contre l'exclusion des étrangers, la scolarisation, la protection des mineurs étrangers et enfin le logement. Je vous ai mis un petit schéma à droite qui est dans le rapport qui vous donne un aperçu de la complexité, de la diversité des producteurs d'archives dans ces thématiques, producteurs qui peuvent être donc des services classiques type DRIETS, préfecture de police, ou qui peuvent être aussi bien sûr des associations, on y reviendra, sur le... L'échelle de gauche, ce sont les échelons du local au national et sur la droite, ce sont les différentes fonctions qu'on a évoquées. Donc, vous pouvez voir que c'est assez diversifié hein, tout de même comme producteur. La conclusion de son étude a été de souligner les disparités en termes de collecte. Donc, en fait, Pierre Marchand a opéré son travail via un questionnaire qui a été envoyé au service d'archives et qui ont qualifié d'une part, la nature de la relation vis-à-vis des services producteurs, donc c'est un jargon un peu archivistique, hein, tous les producteurs d'archives, et d'autre part, si oui ou non, des fonds avaient été confiés à ces services d'archives. Donc au centre du graphique, zéro, ça correspond à pas de relation avec le service ou pas de fonds collectés, et aux extrémités, donc un, une très bonne relation et des fonds collectés. Et à chaque pointe du schéma, ce sont les différentes thématiques qu'on a vues. Alors, constat de base hein, qui est assez frappant, c'est que sur la thématique administration et surveillance des migrants, on n'a pas de difficultés particulières en termes de relations avec les producteurs ou en termes de fonds collectés. En revanche, sur les autres thématiques, notamment l'accompagnement des mineurs ou la scolarisation ou le logement, là, les relations sont plus faibles et les fonds collectés, idem. Ça ne veut pas dire, hein, ce schéma reste un schéma, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun fonds qui a été collecté. Notamment je pense à l'exclusion des étrangers ou l'accueil, ça met de côté la thématique de l'OFPRA qui conserve évidemment des archives sur ce sujet, mais enfin ça reste assez frappant et ça souligne des lacunes. Ça veut aussi dire que dans les fonds conservés au sein des services d'archives, ça ne reflètera pas la réalité des actions qui sont menées en termes d'accueil et de gestion des migrants et ça pourra ne pas répondre éventuellement aux attentes des usagers, que ce soit évidemment, le public historien, mais qui, en tout cas, aux Archives de Paris, n'est clairement pas le public majoritaire qui vient en salle de lecture, mais à ces migrants eux-mêmes ou à leurs descendants qui pourront s'intéresser à leurs origines familiales. Donc, il y a donc des lacunes importantes. On ne peut pas spécifiquement dire que ça a été une politique volontaire de ne pas collecter dans ces domaines. Le côté bien documenté pour l'administration et la surveillance des migrants s'explique notamment par le fait que ce soit des producteurs qui ont l'habitude, entre guillemets, d'être en contact avec les services d'archives. Je pense notamment aux DRIETS, aux préfectures. Ce sont des services qui nous connaissent, qui savent qu'ils ont une obligation en termes de conservation et de versement de leurs archives, et donc avec lesquels on a des relations plus régulières. En revanche, sur une partie des thématiques qui a été évoquée, les missions peuvent être confiées par l'État à des associations qui ont une mission de service public et qui sont donc des producteurs. Je pense que s'il y a des archivistes dans la salle, le savent, qui sont des producteurs que l'on a moins l'habitude, avec lesquels on a moins l'habitude d'échanger pour plusieurs raisons, mais on y reviendra. D'une part, parce que pour certains, ils n'ont pas une bonne connaissance de la notion d'archives publiques, archives privées, qu'ils n'ont pas forcément conscience de l'importance de leur patrimoine. Ça me fait penser aussi à la table ronde, c'est un sujet qui a été évoqué. Et aussi, puisqu'il y a une multitude d'associations, que ce soit donc des très grosses structures, je vous ai mis France Terre d'Asile, ou des toutes petites associations de quartier qui interviennent, par exemple, pour l'alphabétisation, la scolarisation, etc. Donc, ce sont des acteurs qui sont plus multiples et parfois plus difficiles à toucher. Par rapport à ce constat, donc l'objectif, c'était d'initier une démarche un peu plus proactive. Ça a été aussi évoqué dans la table ronde. Pierre Marchand avait déjà évoqué la cible du secteur associatif. Donc, l'objectif était d'entrer en contact avec ces associations pour essayer de les sensibiliser. Là, j'en ai mis quelques-unes. Femmes Terre d'Asile, CASP, c'est le centre d'action sociale protestant. Emmaüs Solidarité se sont notamment occupés du centre d'accueil à La Chapelle, qui a été vraiment très important pour Paris. Les Parisiens doivent le savoir. Sur la partie que collecter, il y a évidemment deux types de documents. Il y a les archives administratives ou de gouvernance pour ces structures associatives qui permettent de garder trace de toutes les activités menées. Et puis, le dossier de suivi des personnes, j'y reviendrai aussi, que ce soit pour de l'accompagnement juridique, pour recueillir des récits de vie avant d'aller à la prochaine étape de l'OFPRA. Donc, voilà pour cet ensemble d'archives. Et puis, le périmètre géographique, on en a parlé. Donc, à partir de ce constat et de ce consensus sur les actions à mener, le travail a débuté assez récemment. Ça a commencé à la fin de l'année dernière avec une première réunion du groupe de travail qui regroupe les services d'archives départementales de l'Île-de-France, qui est menée par les archives de Paris, afin de mener une réflexion, que ce soit tant sur des pratiques d'homogénéisation en termes de collecte que d'essayer de réfléchir ensemble sur comment procéder. Donc, on s'est mis d'accord sur la nécessité d'identifier les fonds et les producteurs pour les sensibiliser. Alors, ça ne veut pas dire forcément tout collecter dans l'immédiat, mais au moins essayer de mieux les connaître et de souligner l'importance patrimoniale de leurs fonds. Dans un premier temps, de ne pas prioriser les thématiques par rapport à celles que je vous ai évoquées, puisqu'on en est à une sorte de première phase de prise de contact. Donc, on ne va pas non plus faire, entre guillemets, du picking pour dire telle association, elle s'occupe de plusieurs thématiques, nous, on la mettra de côté. Et puis là, c'est quelque chose qui parle aux archivistes, je pense, éviter l'échantillonnage tant que c'est possible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les pratiques d'échantillonnage dans les fonds d'archives, c'est un peu remis en question aujourd'hui par certains services. On a pu pratiquer les échantillonnages en lettres BET, par exemple, pour les dossiers individuels, ce qui a créé beaucoup de frustration si votre nom de famille commence par C, par exemple, ou de la frustration aussi pour les historiens, puisque les échantillons ne sont pas toujours exploitables. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de procéder ou bien par une collecte intégrale ou bien de conserver vraiment les documents d'importance. Mais cet échantillonnage, on essaiera vraiment d'y venir qu'en dernier recours. Je vous fais un petit point d'étape, puisque là, cette intervention est qu'une première... une première avancée sur ce projet de collecte. On a pu prendre contact avec des associations, notamment l'association Femmes de la Terre, qui est une petite association qui existe depuis 30 ans, qui vient en aide notamment aux femmes de nationalité étrangère, qui les accompagnent dans leur démarche juridique, leur démarche d'accueil, mais pas uniquement. La FASTIC est la fédération des antennes de solidarité avec les travailleurs immigrés. Là, ce sont plutôt eux qui sont venus vers nous, et c'est un champ un peu à part. Et puis, j'ai évoqué là dans la diapositive les directions territoriales de l'OFI. Alors, ce n'est clairement pas le secteur associatif, mais ça fait partie des producteurs avec lesquels nous avons repris contact pour essayer de mieux documenter ces phénomènes. L'objectif aussi, c'est donc avec ce groupe de travail, c'est d'essayer de mettre en place un support de sensibilisation concernant la préservation des archives, et d'avoir, donc on ne pourra probablement pas intervenir sur tous les fronts, mais à minima, d'avoir des indications sur les services à contacter, sur les documents qui sont intéressants, parce que c'est souvent les questions qu'on nous pose, mais qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous intéresse comme document. Donc voilà, d'avoir un premier support à leur proposer. Des points de réserve, parce qu'évidemment, ce n'est pas que positif, et là, je pense que ça fera écho à l'intervention aussi à la table ronde du début d'après-midi. La crainte qu'ont certaines associations quant à la sensibilité des informations, ça c'est un sujet que j'ai abordé avec une des associations qu'on a rencontrées. Parfois, les personnes qui viennent dans ces structures ont des faux papiers d'identité pour pouvoir travailler dans des établissements. Parfois, on leur raconte des récits de vie ou des enfants qui sont nés sans qu'il y ait aucune déclaration, des mères qui ne sont pas passées par un quelconque hôpital, donc des gens qui sont vraiment en dehors des circuits de création de documents que l'on peut récupérer indirectement dans les services d'archives. Et puis, je mentionne, mais très rapidement, la problématique RGPD, quand ces personnes vont auprès de ces associations, Parfois, ils parlent, c'est même fréquent, ils parlent peu ou mal français. Donc, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont, par exemple, signer un formulaire concernant le traitement de leurs données personnelles, alors que les données personnelles, c'est un peu quelque chose qui est vraiment très sensible. Ce sera des problématiques particulières. Le deuxième point, on l'a évoqué à propos de pouvoir contre pouvoir, c'est le fait que les services d'archives soient indirectement identifiés à l'État et le fait que si l'on conserve, si on accepte de conserver au sein de nos institutions des fonds d'archives sur ces migrants, il y a un manque de confiance potentiel de la part de ces associations pour se dire est-ce que ce sont des archives qui sont, voilà, est-ce que la confidentialité sera bien préservée pour ces archives. Je l'ai mis, et puis ça a été évoqué en termes de disponibilité des équipes. Alors là, je ne parle pas des services d'archives qui, en effet, ont déjà beaucoup à faire en termes de collecte, mais de la disponibilité de ces associations, des bénévoles qui sont souvent au cœur de l'action. Leur engagement est vraiment lié à l'aide des personnes et pas forcément à la préservation des documents. Et l'investissement affectif qu'ils ont quand ils travaillent depuis longtemps dans ces associations, qui ne veulent pas toujours se défaire des documents. Le choix effectué quant au tri des archives, j'en parlerai peu. Et ce que je voulais évoquer, c'était la disparition de structures intermédiaires. Donc ça a aussi été mentionné au moment de la table ronde, la nécessité d'avoir des associations qui fassent un peu, ou des structures quelconques, qui fassent l'intermédiaire entre les services d'archives et les producteurs de ces archives. L'association générique, elle a disparu assez récemment. Elle menait un gros travail de traitement des archives. Ça nous facilitait grandement la tâche. Et elle permettait aussi de faire l'intermédiaire entre des services d'archives, je pense aux archives municipales, aux archives départementales, ou même à la contemporaine, l'ancienne BDIC, et puis aux autres, à ces associations. Donc, on n'a plus cet échelon intermédiaire qui permettait aussi que nous, en tant que scientifiques, en tant qu'archivistes, on n'ait pas toujours le bon vocabulaire adéquat ou la bonne démarche pour expliquer ce qui était nécessaire de présenter à ces associations. Voilà, ce sont quelques points qu'on va devoir surmonter pour avancer dans cette collecte ou à minima dans cette sensibilisation quant au patrimoine concernant les migrants. Donc une conclusion qui n'en est pas vraiment une, c'était simplement pour vous dire que c'est un projet qui se mène sur le long terme, qui nécessite des relations de confiance avec les personnes. Bon, ça a été évoqué aussi dans cette journée d'études, le fait que ça se passe par contact. Il se trouve que parfois ça fonctionne sans contact. Femmes de la Terre, c'est une association qu'on a contactée comme ça. On connaissait personne, ils nous ont répondu, mais c'est quand même très facilitateur lorsqu'il y a des personnes que l'on connaît déjà. Et on reste dans cet objectif de mettre à disposition du public déjà des sources qui documenteront l'histoire du territoire, d'un territoire fortement marqué par l'immigration. Et surtout, dans la perspective de se dire quels seront les usages de ces archives et quelles seront les attentes quant à la consultation de ces documents. Est-ce que les descendants de migrants auront le souhait de consulter uniquement un dossier d'aide au retour au pays ou quelque chose de très administratif? Ou est-ce que, et on pense que oui, l'aspect récit de vie, vraiment les informations personnelles sont aussi tout à fait importantes pour ce public. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui et merci également aux organisateurs et aux organisatrices de cette très belle journée. Par ailleurs, particulièrement bien organisée, je trouve, d'un point de vue aussi temporel, et je vous en remercie. Mon propos aujourd'hui portera sur cet immeuble que certaines d'entre vous connaissent peut-être. Alors, en général, quand je fais une présentation sur cette recherche qui est en cours, je pose toujours la question de qui est déjà rentré dans cet immeuble, soit en tant que membre de jury, soit en tant que candidat. Voilà. Alors, la maison des examens et des concours d'Arcueil me donne l'occasion aujourd'hui de travailler sur une question qui nous intéresse tous et toutes, il me semble, c'est celle de l'invisibilisation d'un bâti et de ses usages sociaux, alors que potentiellement, on a tous eu un usage, visiblement en tout cas dans cette salle en majorité, de ce bâti, soit en tant que candidat, soit en tant que membre d'un jury de concours ou d'examen. Donc, que faire face à des situations de silence des politiculteurs, des acteurs, des professionnels des politiques culturelles, mais aussi de la recherche, alors qu'un bâti aussi monumental que la maison des examens existe dans un état tout à fait dans son état originel, que ces archives existent et sont en fait extrêmement facilement accessibles. Je reviendrai aussi sur les AD de Paris qui accueillent des archives de la maison des examens, et que même les usages sociaux de ces bâtis par les candidats eux-mêmes ou par les membres du jury sont relativement facilement accessibles. Donc, qu'est-ce qui explique, du point de vue de la sociologie, puisque comme il a été dit, je suis sociologue, ce processus de non-patrimonialisation d'un bâti comme la maison des examens. Donc, l'entrée par la maison des examens, c'est en fait, si j'ose dire, un prétexte en quelque sorte pour travailler sur la question de l'architecture universitaire, mais vue par l'architecture universitaire dite de la massification. Donc, tous les bâtiments universitaires qui ont été construits à partir de 1945 et en particulier à partir des années 60, au fin des années 50, début des années 60, c'est-à-dire au moment de la première vague de massification universitaire. J'ai regardé les sources, la base Mérimée notamment, et me suis intéressée au label de patrimonialisation, et il me semble que c'est des bâtiments, contrairement à tous les bâtiments qui sont liés plutôt à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, voire plus anciens bien sûr, comme un certain nombre de bâtiments, par exemple des grandes écoles. La Sorbonne, dans son existence actuelle, est en fait, il me semble, datée du 19e siècle, sauf la chapelle centrale, donc sont relativement peu patrimonialisés. Alors, certains campus sont représentés par des labels comme le label Patrimoine du XXe siècle ou Architecture contemporaine remarquable. Et parmi ces quelques cas, vous pouvez trouver les cas, par exemple, du campus EC Marseille, qui a la caractéristique d'avoir été construit par Fernand Pouillon. On retrouve aussi quelques autres campus de la massification universitaire, mais souvent associés en fait à un nom prestigieux. Par exemple, l'Université Toulouse de Jean Jaurès, qui est aussi appelée Toulouse le Mirail, qui est associée en fait au cabinet de Georges Candilis. Et à part ces cas extrêmement précis, il me semble un relatif désintérêt d'un point de vue patrimonial pour ces structures-là. Je regarde également les recherches, notamment en histoire de l'art et de l'architecture, et effectivement, l'architecture universitaire se concentre sur des immeubles plus anciens, mais pas forcément sur ces nouveaux immeubles. Alors, c'est moins vrai depuis quelques années, et notamment autour des travaux de Éléonore Marantz en articulation avec les services de la chancellerie des universités de Paris, mais aussi sous l'impulsion d'une archiviste des Archives nationales qui s'appelle Anne Rofrutsch. J'espère que je ne écorche pas son nom, vous me corrigerez, vous ne lui direz pas en tout cas, qui a véritablement encouragé les chercheurs à travailler notamment sur les services, sur les fonds des services constructeurs de l'éducation nationale, où se trouvent les fonds de ces bâtis contemporains de l'université. L'idée pour moi, c'était véritablement de faire une histoire matérielle de la massification scolaire et universitaire à partir de ces bâtis. Comment le bâti reflète-t-il finalement l'histoire de la massification scolaire et universitaire ? On sait beaucoup de choses à partir des archives, mais quid des bâtis et qu'est-ce qu'ils ont à dire justement de ces politiques de massification ? Alors, la massification scolaire, c'est une politique éducative, encore une fois, qui, à partir de la fin des années 50, début des années 60 en France, vise à élargir le nombre d'étudiants afin d'élargir le nombre de salariés qualifiés. L'idée étant évidemment de participer à la croissance économique. Cette massification scolaire, elle répond aussi à ce qu'on appelle parfois en sociologie de l'éducation une demande sociale d'éducation des publics dans un temps de croissance et d'augmentation des loisirs. Il y a aussi une demande de formation accrue à cette époque-là. Dans tous les cas, l'intérêt de mon étude, c'est vraiment de se poser la question suivante. Comment le bâti est-il élaboré par les professionnels de l'éducation, mais aussi par les professionnels du bâtiment et les architectes, pour accueillir ces nouvelles vagues d'étudiants ? Alors, très concrètement, pour vous donner quelques éléments, les architectes sont sollicités par le cabinet du ministre, voire par le ministre lui-même dans des, et ça, Éléonore Marantz le souligne bien, dans des situations en fait extrêmement personnalisées. Hein. Le ministre connaît bien un cabinet d'architectes, donc il se donne le droit, sans même de contrôle, de solliciter tel ou tel architecte. Il peut évidemment aussi solliciter le corps des architectes des bâtiments civils et des palais nationaux. C'est le cas, par exemple, de l'Université Montpellier III. Le bâti, une des caractéristiques des bâtis peut-être le plus connu, c'est que et son intérêt aussi pour la période de la première vague de massification scolaire, c'est qu'elle permet d'étudier les procédés d'industrialisation des structures, donc avec un recours à l'acier, avec un recours au préfabriqué, selon des logiques ou des techniques mises en place, notamment par des entrepreneurs comme Paul Chalin, qui est sans doute le plus connu. Pourquoi ? Ben parce que c'était son entreprise, donc, qu'on appelle le GEP en acronyme, qui avait le quasi-monopole entre les années 60 et la fin des années 70 sur les établissements scolaires, notamment secondaires, mais aussi sur les universités, ou un certain nombre d'universités, en termes de structure. L'idée étant évidemment d'avoir la possibilité de construire vite des universités qui pouvaient accueillir un nombre important d'étudiants. Et je vous ai mis la photo du centre universitaire expérimental de Vincennes, maintenant détruit, comme vous le savez, qui a été construit par Paul Chalin et selon ces nouveaux procédés. Donc, il y a un véritable intérêt, il me semble, de ces bâtiments, y compris d'un point de vue de l'histoire de l'architecture, mais définitivement, pour prendre un anglicisme, du point de vue de la sociologie de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qui est mon point de vue. Petite incise. Donc déjà, pour vous présenter la photo sur la droite, qui est en fait une photo issue du fonds d'archives d'architecture du XXe siècle, qui est en fait la maquette de la maison des examens et qui est en fait disponible, à la fois la maquette en elle-même et la photo de la maquette est disponible. Donc j'y reviendrai dans un instant. En termes de cadrage théorique, un petit point, alors évidemment je suis sociologue, mais j'ai découvert avec grand intérêt les travaux par exemple de Gérard Monnier, donc, qui est historien de l'architecture, qui s'est particulièrement intéressé à ce qu'il appelle l'architecture de la croissance, donc en partant des grands ensembles, mais en s'intéressant aussi aux équipements civils, les hôpitaux, les centres commerciaux, et s'est aussi intéressé par le biais de ses doctorants et de ses doctorantes à des bâtiments plus inédits ou plus inattendus, comme les boîtes de nuit Macumba. Je vous invite vraiment à lire le livre qu'il a édité en 2002, qui s'appelle « Les années ZUP », où il revient justement sur ces équipements civils de l'ordinaire de la vie quotidienne, mais qui disent quelque chose de cette histoire de la croissance économique dans la France des Trente Glorieuses, comme on disait encore. Et avec ce sont des productions qui sont, comme il le dit, dominées par des effets de quantité. Donc, les grands ensembles, c'est exactement ce cas-là. Et donc, éloignées des processus habituels de reconnaissance de l'architecture contemporaine, donc en dehors des commandes prestigieuses, des réseaux élitaires, des commandes à l'international, etc., etc. Et c'est exactement mon approche, c'est m'intéresser véritablement à ce qui est le plus ordinaire dans la production architecturale autour de la massification universitaire. Revenons à la maison des examens peut-être et à son histoire. Alors, il s'agit évidemment d'un bâtiment singulier, voire unique en France. Je retrouve des traces d'une maison des examens qui n'existe plus à Rennes, mais au-delà de la maison des examens d'Arcueil, je n'ai pas d'autres exemples, peut-être que dans la salle. Il y aura éventuellement des personnes qui accepteront de partager leur expérience. Mais à ma connaissance, c'est un cas unique de maison des examens qui prend la forme d'une panoptique. On parlait de la prison et de Michel Foucault, surveiller et punir. Évidemment, dans surveiller et punir, Foucault parle de la prison, c'est l'exemple le plus célèbre, mais il parle aussi des hôpitaux et il parle aussi des examens dans leur dimension scolaire. Pour lui, l'école est une panoptique. Et évidemment, les salles de classe et les salles d'examen sont une panoptique. La maison des examens d'Arcueil, évidemment, a une fonction d'examen et de surveillance des examens, dans un premier temps pour l'Université de Paris. On est encore avant mai 68. Elle répond à un plan en croix, donc sur 8 étages, Elle peut accueillir 4000 étudiants. Et ce qui est caractéristique, je pense, de la période de la massification universitaire, c'est que, qu'on soit le premier candidat à un concours, l'École du Louvre ou l'INP, par exemple, ou le 4000e, on est invité à passer ce concours-là ou cet examen d'entrée dans les mêmes conditions. Qu'on soit le premier ou le 4000e, on est sur une table d'un mètre sur un mètre à équidistance de ses voisins. Et là, véritablement, la maison des examens incarne une expérience méritocratique où tout le monde a le droit, dans un contexte de massification, à avoir accès, en quelque sorte, même si évidemment c'est une mise en scène, c'est une mise en fiction, en quelque sorte, à avoir accès à une forme d'égalité de traitement de l'État sur, et à l'égard de son, la reconnaissance de son propre talent. Pour ceux qui ne seraient jamais allés à la maison des examens, une petite photo que j'ai prise moi-même. Donc évidemment, on retrouve les fameuses tables qui correspondent à une forme scolaire, en fait, socialement et historiquement située, bien sûr. Si vous n'avez pas de souvenir de la maison d'examen, les étudiants sont invités à rentrer et à sortir des salles exclusivement par l'arrière des salles où se trouvent aussi les toilettes. Et la maison d'examen est donc à un plan en croix et au centre, en fait, le tronçon central en quelque sorte, et où le pignon est composé essentiellement des services administratifs et des ascenseurs pour faire circuler les copies. Donc il y a un circuit de circulation des copies et des surveillants au niveau du centre et de circulation des étudiants et des candidats au niveau de l'extérieur. Donc, plan croix sur 8 étages, 4000 places, construit entre 1967 et 1969 sur une caserne militaire détruite et à proximité d'un bidonville qui s'appelait Bidonville, qui était sur la frontière entre Arcueil et Gentilly, donc, qui s'appelait la Villa Mélanie, principalement composée de familles et de populations issues d'immigration portugaise et italienne. Donc on est aussi sur des problématiques qui lient l'histoire de l'université à l'histoire des bidonvilles, et ça c'est des choses qu'on retrouve par exemple dans le cas de Nanterre, bien sûr, dans un autre contexte. Et depuis 1972, la maison d'examen abrite le SIEC, c'est-à-dire le service interacadémique des examens et des concours, qui organise tous les concours de l'éducation nationale, donc CAPES, agrégation, les concours de personnel de direction des établissements, par exemple, mais aussi un certain nombre de concours des grandes écoles, donc École du Louvre, Sciences Po Paris, les ENS, bien sûr, et par ailleurs, elle organise des concours dans des salles, notamment privatives, qu'elle loue. Donc, quand vous avez passé un concours au Parc Floral ou par exemple à Villepinte, c'est encore le SIEC, c'est encore la maison d'examen, mais simplement, ils ont utilisé d'autres salles pour avoir des capacités d'accueil encore plus, plus importantes. Du point de vue de l'architecte, il s'agit de Jacques-Henri Riedberger, qui est donc un architecte des bâtiments civils et des palais nationaux, qui en fait spécialise des hôpitaux blocs. Alors pour moi, ça a été une grande découverte. Ça, enfin, l'œuvre la plus connue de cet architecte, c'est Henri Mondor à Créteil, qui est en fait un hôpital qui a fait l'objet d'une patrimonialisation, donc paradoxalement, donc qui a été fini en 1969. Exactement au même moment que la maison des examens, mais qui a connu un autre destin d'un point de vue patrimonial, puisqu'on a fêté son anniversaire, et une reconnaissance de l'intérêt de cet hôpital bloc comme quelque chose qui incarne à la fois l'histoire de la ville nouvelle, qui n'en est pas exactement une, enfin, en tout cas de la ZUP de Créteil, et l'histoire de la médecine, tout simplement, histoire de la médecine en termes d'accueil, par exemple, des publics. Dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi avec la maison des examens, c'est qu'elle n'a pas fait l'objet d'une patrimonialisation jusqu'à présent, alors qu'elle représente, il me semble, une certaine histoire du mérite standard, comme je le disais, l'accueil d'une masse d'étudiants extrêmement importante dans des conditions spécifiques de forme scolaire, donc les fameuses tables d'un mètre sur un mètre à équidistance, qui incarnent l'égalité de traitement face à l'État. Ce qui est très spécifique à la maison des examens, c'est que quand on la replace géographiquement, elle est à proximité d'autres espaces universitaires qui, eux, ont pu faire l'objet d'une patrimonialisation. C'est le cas notamment de la Cité universitaire internationale, hein, bien connue, c'est sans doute le cas d'architecture universitaire contemporaine du XXe siècle qui est le plus légitime du point de vue de la recherche scientifique. Mais la maison d'examen est aussi à proximité d'autres lieux qui n'ont pas été patrimonialisés, mais qui ont fait l'objet de mobilisations pour encourager sa patrimonialisation. Et c'est notamment le cas de la cité universitaire, donc de la résidence Jean Zay, qui se situe, ça y est, le nom de la ville m'échappe, mais en tout cas, qui a fait l'objet d'une mobilisation assez récente, notamment de ses anciens élèves, pour justement encourager sa patrimonialisation, l'architecte étant Marcel Lotz, pour cette cité universitaire. Est construite juste après la guerre. Ce qui est intéressant aussi avec la maison des examens et ce qui, en tant que sociologue, m'étonne toujours, c'est qu'elle représente, enfin qu'elle est représentée dans des produits culturels et notamment par exemple des films. On la retrouve dans le film L'étudiante avec Sophie Marceau, donc c'est peut-être un petit peu ancien pour le public. L'étudiante, c'est Sophie Marceau qui passe l'agrégation de lettres, elle la passe à la maison des examens. En fait, le film était tourné à la maison des examens, à la Sorbonne et à la maison des examens. Il y a d'autres cas de films ou de séries qui ont pu utiliser la maison des examens. Donc c'est une image d'Épinal de la forme scolaire du concours écrit. Et j'y reviendrai. Pourquoi je me suis intéressée en tant que sociologue à la maison des examens ? En fait, moi, je travaille sur l'expérience des concours et des examens, notamment des étudiants en grande école, et notamment ceux de Sciences Po Paris, qui passent en général leur examen d'entrée, du moins jusqu'à un peu de temps, à Arcueil. Et ce que j'ai souligné, mais c'est exactement la même chose également pour les étudiants des ENS, c'est qu'on avait des formes d'invisibilisation de la maison des examens dans les récits de vie des étudiants relativement à leur passage de concours. Donc, les étudiants me racontaient leurs oraux dans les établissements, donc la classe prépa, les oraux dans les établissements, l'annonce des résultats et éventuellement le premier jour d'arrivée dans l'établissement. Mais la maison des examens n'apparaissait jamais dans les discours, sauf avec deux figures. La première figure, c'était, elle est toujours à la suite d'une de mes relances dans le cadre des entretiens par récit de vie, les deux figures récurrentes dans les récits de vie des étudiants, c'est un, l'aspect esthétique de la maison des examens, qui est en général assez discuté par les étudiants et par les candidats et les admis. Voilà, j'ai mis une petite citation, c'est en général associé à ce qu'un candidat appelle le bâtiment le plus laid d'administration. Voilà, donc l'aspect un peu brutaliste, bétonné de la maison des examens. La deuxième figure qui est récurrente autour de la maison des examens, c'est la connexion RATP. Et c'est le cas aussi pour un certain nombre de mes collègues, je dois l'avouer. Quand je dis que je travaille sur la maison d'examen, souvent le premier souvenir qu'on évoque, c'est ben, en fait, moi, je me suis trompée de RER et je me suis retrouvée à Bourg-la-Reine. Et donc, du coup, j'ai dû prendre le RER dans l'autre sens pour arriver à Arcueil en sueur, en espérant qu'on me laisse rentrer dans les salles. Je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous aient eu la même expérience. On pourra peut-être en parler après. Dans tous les cas, en fait, ce qui m'intéressait, c'est l'invisibilisation, évidemment, de ce bâtiment dans les récits de vie, qui pour moi, c'était mon hypothèse, était liée donc, au caractère bureaucratique et un peu désincarné de l'admission, qui est loin, en fait, y compris loin géographiquement, mais aussi d'un point de vue social, hein, distance géographique et distance sociale, à l'égard en rapport aux espaces légitimes de l'université. On est loin du quartier latin, enfin pas si loin que ça, mais on est quand même assez loin du quartier latin. On est loin de Saclay, pour prendre un exemple plus contemporain. Et par ailleurs, la maison des examens se situe dans une ville anciennement de banlieue rouge et qui est plutôt associée à des milieux populaires. À partir de ces premières enquêtes, je me suis dit, bon, bah, finalement, la maison d'examen est intéressante parce qu'elle est invisible. Donc, j'imaginais que, du coup, en allant regarder dans les archives, je ne trouverais absolument rien. Eh bien, évidemment, ça a été tout l'inverse. En fait, les ressources sont très importantes et elles sont relativement faciles d'accès pour qui s'y intéresse. Donc, mon premier réflexe en tant que sociologue, et donc pas en tant que historienne, ça a été d'aller aux archives nationales où je suis tout de suite tombée sur des cartons donc relatifs au service constructeur de l'éducation nationale, mais aussi aux archives orales associées au ministère de l'éducation nationale. Un beau fond, très beau fond du rectorat de Paris également aux archives de Paris qui m'a permis aussi de faire l'histoire administrative de cette maison ou du service interacadémique des examens et des concours. Les archives de la Cité du patrimoine dont j'ai déjà parlé, les archives municipales d'Arcueil dont je reviens, sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Vous avez aussi un fond sur l'architecte dans les archives de l'École des Beaux-Arts. J'ai pris connaissance il y a peu de temps des archives de la RATP. Comme vous le savez sans doute, la maison d'examen est construite sur la ligne, anciennement la ligne de Sceaux, désormais le RER B. Elle est accessible par la station de La Place. Il y a aussi des cartons et des dossiers sur la maison d'examen, et notamment autour de la gestion des flux d'étudiants aux archives de la RATP, donc les archives de Val-de-Marne et le fonds propre du siècle, etc. etc. Donc, d'où mon interrogation méthodologiquement. Qu'est-ce qui explique cette invisibilisation dans l'expérience du concours, dans les discours des enquêtés, de la maison des examens, alors, et puis par ailleurs, invisibilisation dans la recherche et invisibilisation en termes de professionnels du patrimoine, d'intérêt patrimonial, alors qu'il existe plein de sources et que ce bâtiment me semblait tout à fait intéressant à plein d'égards. Deux éléments dans mon enquête d'un point de vue méthodologique qui peuvent me permettre peut-être de répondre à cette question. Donc, mon premier réflexe a été donc, d'aller aux archives nationales, mais aussi de contacter la maison des examens et d'aller donc au SIEC, où j'ai découvert l'existence d'un fonds d'archives très ancien qui pouvait remonter jusqu'à 1900, j'y reviendrai dans un instant. Fonds très ancien, mais totalement fermé aux chercheurs. Et pour moi, en fait, l'invisibilisation de cette maison d'examen, elle est aussi liée au fait que ces ressources restent associées donc à la fonction initiale de la maison d'examen, c'est-à-dire organiser des concours dans la région académique de l'Île-de-France. Je m'explique. Le fonds des archives, il y a des dossiers personnels, il y a aussi des PV de concours, donc des procès-verbaux de concours, et des fonds de sujets, donc tous les sujets sur un concours donné, l'agrégation de lettres ou d'histoire, sur maintenant plus d'une centaine d'années. Ces fonds sont à usage, en fait, visiblement, c'est ce qu'on m'a expliqué dans un premier temps, à usage interne pour les personnels. L'idée, c'est que les administrateurs qui gèrent les concours puissent s'assurer de la légalité des concours qu'ils organisent en fonction des PV et des traces des concours des années précédentes. Autre élément qu'on m'a opposé dans un premier temps, c'est aussi l'absence d'archivistes officiels. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé assez souvent, notamment dans les archives municipales. Pas d'archivistes, donc pas d'inventaire, donc pas d'accès aux chercheurs possibles. Ce qui était très surprenant, je dois l'avouer, pour une sociologue comme moi qui ne travaille pas traditionnellement sur les archives, qui n'ait pas d'archivistes, alors que les fonds sont importants. Et évidemment, une justification et qui est légitime, bien sûr, qu'on m'oppose souvent travaillant sur les concours, c'est qu'il y a dans ces fonds la présence de dossiers personnels sur les inscrits, donc avec des éléments personnels, médicaux, éventuellement juridiques, et qui font que le fonds, en absence d'archivistes qui puissent trier les éléments, ne sont pas accessibles pour les chercheurs. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand, à l'occasion d'un entretien avec une personne de la maison des examens, j'ai découvert à l'accueil de la maison des examens une exposition sur l'histoire de la maison des examens à l'occasion des 40 ans de son service. Donc, très concrètement, il s'agissait d'une exposition à la fois virtuelle, que vous pouvez d'ailleurs consulter, et une exposition sur place sur les grilles de la maison des examens et également à l'intérieur de la maison des examens, donc sous la forme de petites boîtes. On peut trouver donc des copies, donc toute l'histoire des copies des concours depuis 1945, plein d'anecdotes, notamment par exemple sur la naissance d'un bébé à la maison des examens, rendez-vous compte. Je me suis interrogée. Vous m'interdisez, il n'est pas possible de consulter le fonds, mais vous l'utilisez potentiellement pour faire votre exposition. Pourquoi et comment ? Alors, ce qui m'a été répondu, c'est qu'il s'agissait d'assurer la création d'une marque avec un langage stream marketing, finalement, pour retenir les personnels, alors que la maison d'examen, en fait, est un espace où, finalement, visiblement, il y a beaucoup de turnover du point de vue des personnels. Donc, l'idée, c'était de créer une marque SIEC pour retenir les personnels. Dans tous les cas, ça contribue à la mise en silence, évidemment, de la maison d'examen. Rapidement ou très rapidement, deuxième point de surprise, c'était quand je me suis rendue dans les archives municipales d'Arcueil. Archives municipales avec un personnel absolument ravi de me voir, absolument dédié et formidable, mais avec un fort turnover, des inventaires limités, pas toujours à jour. Une présence aussi d'associations d'histoire locale, il en a été question aussi ce matin. Donc, je me disais que potentiellement, je pouvais avoir des traces à la maison d'examen assez facilement, mais qui m'ont tout de suite dit qu'il n'y avait rien. De toute façon, ne cherchez pas, il n'y avait rien. Donc, en bonne chercheuse, en général, quand on nous dit ça, évidemment, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose à voir. Donc, je me suis accrochée. J'ai trouvé, bien sûr, les plans et les permis de construire et aussi quelques photos dispersées, mais surtout des traces dans les bulletins municipaux. J'en ai mis une photo et les comptes rendus de conseils municipaux. Et ce que soulignent ces traces, c'est que finalement, le travail d'invisibilisation de la maison des examens, elle est assez compréhensible si on la considère comme le produit d'un désengagement des acteurs locaux, donc de la municipalité d'Arcueil, à l'égard de cette maison, qui considère comme un équipement national dans un contexte de lutte entre les maires de la banlieue rouge, donc les maires, les élus PCF de la banlieue rouge entre 1920 et 1980, et le pouvoir gaulliste qu'ils associent justement aux équipements nationaux. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai, tout à fait retrouvé dans les archives municipales où il n'était jamais question de la maison d'examen, mais où il était question de ce que j'appelle la bataille de la place, vous comprenez le jeu de mots, autour de la mobilisation contre la maison des examens. Donc, ce qui est intéressant avec la maison des examens, c'est que sa visibilité dans les archives, elle n'est faite que par le biais en fait, de cette mobilisation contre. Donc là, je vous ai mis deux photos qui viennent des archives, donc que j'ai trouvées de manière un peu par hasard, parce qu'elles n'étaient absolument pas inventoriées. Il est question, en fait, sur le terrain de la maison d'examen pour la municipalité. Là, vous voyez le maire Marcel Trigon, maire communiste de l'époque, de construire non pas une maison des examens, un équipement national, mais un lycée, ou plus exactement un CES, un collège sous une ancienne formule. Je ne veux pas l'histoire des collèges, des collèges depuis les années 1945. Donc, la municipalité refuse, dès les années 60, l'intégration de la maison des examens sur son terrain arcueillé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la maison d'examen, elle s'inscrit finalement dans une lutte politique pour l'occupation légitime de l'espace. Quelques mots vraiment et très rapidement. On ne peut pas du coup comprendre l'histoire de la maison d'examen sans comprendre, par exemple, que la ville d'Arcueil, comme de nombreuses villes du sud de Paris, ont été à partir de 1945 absolument investies par des équipements nationaux sur lesquels les municipalités n'avaient pas de contrôle. Et pour Arcueil, l'événement traumatique, si j'ose dire, ça a été l'imposition du tracé de l'autoroute du Sud, l'autoroute du Soleil à l'époque, autoroute du Sud désormais, en 1949, donc construction à partir de 1949, qui en fait traverse complètement la ville et la divise en deux. Et à partir de là, en fait, la municipalité ne fait que se mobiliser pour empêcher d'autres équipements nationaux d'investir l'espace de la ville, donc notamment un élargissement du campus de la cité universitaire sur Gentilly et sur Arcueil, toujours dans un contexte, comme je l'ai dit, de lutte contre le pouvoir gaulliste. En quelques mots de conclusion, donc les logiques, c'est encore une enquête évidemment encore en cours, mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est de souligner les logiques politiques, sociales, sous-jacentes qui nourrissent donc la tendance des acteurs, en l'occurrence mes candidats, à marginaliser des espaces d'examen alors qu'ils tiennent un rôle central dans la trajectoire des individus et que même aujourd'hui, visiblement, vous vous souvenez encore d'Arcueil. Mais il me semble que cette histoire n'est pas non plus inéluctable. L'exposition même mise en œuvre pour les acteurs pour des raisons visiblement marketing, souligne sans doute une patrimonialisation à venir à laquelle, paradoxalement, je pourrais participer potentiellement avec la publication d'articles ou de livres éventuellement. Et par ailleurs, l'usage des archives de l'INA, qui font aussi partie de mon corpus, peuvent contribuer à la revisibilisation, à la repatrimonialisation du bâti par ces usages, sachant évidemment que vous avez un certain nombre de reportages dans les archives de l'INA autour des candidats au baccalauréat, des candidats dans les grandes écoles au BTS, etc., etc., qui peuvent être concernés par la maison d'examen. Je vous remercie.
Peut-être rapidement, s'il y a une ou deux questions dans la salle.
Merci beaucoup. J'avais deux questions. Arcueil fait partie d'un EPT. Orly, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, qui est en charge, qui a maintenant la compétence des archives. Donc, je voulais savoir si vous aviez un peu exploré ce côté-là.
Déjà, je suis en train d'explorer la totalité des archives d'Arcueil et notamment liées à l'organisation de la municipalité. Et déjà, j'ai beaucoup d'éléments, en fait. Mais j'ai beaucoup d'éléments, comme je l'ai dit, moins sur la maison d'examen ou à la marge, on la voit en fond, que sur la mobilisation contre la maison d'examen, qui m'intéresse tout autant, en fait. Ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment réancrer socialement et urbanistiquement cet équipement national qui est toujours abordé, enfin, en fait, qui n'est jamais abordé, mais dont on serait tenté de l'aborder que par l'expérience des candidats. En fait, cette expérience des candidats, elle dépend aussi d'une construction sociale et historiquement située, qui est celle de la mairie d'Arcueil. Donc déjà, j'essaie de restituer ça, mais merci beaucoup pour cette proposition, cette suggestion plus exactement.
Et ma deuxième question, c'était savoir si vous aviez aussi regardé du côté de l'inventaire régional d'Île-de-France, puisqu'ils ont fait récemment une étude sur les lycées, et ils soutiennent aussi un programme de soutien au patrimoine régional, d'intérêt régional, donc si vous aviez un peu exploré cette piste-là.
Alors, ce qui est intéressant avec les lycées, donc merci beaucoup encore une fois de cette suggestion. Ce qui est intéressant avec les lycées, c'est que, à ma connaissance, la recherche s'intéresse, et il me semble que c'est aussi le cas pour le patrimoine, essentiellement au lycée de la Troisième République, donc école primaire, lycée de la Troisième République, et comment ils incarnent une certaine idée de l'école, finalement, et aussi une deuxième phase des immeubles peut-être plus contemporains associés à des architectes célèbres. Et c'est le cas, notamment, encore une fois, de Lodz et Baudouin. Et je pense notamment à une école à Suresnes qui n'est plus une école, mais c'est une école de plein air, en fait, et qui incarne un nouveau type de pédagogie où on essaye d'éduquer les enfants en plein air. Et donc, ce qui implique toute une réflexion architecturale avec une influence, en l'occurrence, hollandaise. Et effectivement, il y a alors, je ne me suis pas intéressée aux inventaires, mais à un certain nombre de productions, donc deux personnes qui s'intéressent à ça. Et je m'interroge sur justement ces époques qui sont particulièrement prisées, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'intéresser aux inventaires globaux. Donc, encore une fois, merci beaucoup de cette suggestion.
Il n'y a pas de questions en ligne, non? Bon, bah merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Maximilien pour conclure la journée, mais merci beaucoup Charlotte et Annabelle pour cette très belle présentation.
Oui, une conclusion que j'espère en tout cas faire assez rapide pour reparler de finalement qu'est-ce qu'était le sujet de cette journée. Faire parler les silences de l'histoire, c'est un très vaste programme et nous avons essayé très modestement d'y donner quelques éléments. Personnellement, j'en tire trois axes, petits axes. D'une part, faire parler les silences de l'histoire, c'est d'abord redonner la parole à ceux qui ne l'avaient pas forcément. Faire parler ceux que l'on appelle peut-être un peu rapidement parfois les oubliés de l'histoire. Et en cela, avec des programmations, une programmation qui a donné sa parole, par exemple, au bagne, au squat, nous avons essayé de donner justement cette parole et d'essayer de la restituer. Nous avons essayé également de faire parler les silences parce que c'est un acte de fait, c'est un acte performatif. Mais ça ne veut pas dire que celui-ci est déconnecté de la société dans laquelle nous vivons. Et en tout cas, c'est ce que nous avons essayé également de faire aujourd'hui, en tout cas de donner la parole avec des projets comme Saint-Jean-de-Maurienne ou alors ce site archéologique merveilleux où justement il y avait une vraie parole qui était donnée aux acteurs de la société. Puis enfin, c'est faire parler les sciences de l'histoire, c'est évidemment faire patrimoine. Et c'est là où, modestement, nous essayons d'intervenir avec cette programmation dont on espère qu'elle a réussi à évoquer toutes les spécialités du concours de conservateurs du patrimoine, l'archéologie, les archives, les musées, les monuments historiques, l'inventaire, le patrimoine scientifique, technique et naturel. Et puis également une programmation qu'on voulait engager et engageante à l'image de notre marraine de promotion, Michel Perrot, ici présente, qui nous fait l'honneur d'être ici et dont nous essayons très modestement de rentrer dans l'héritage. Il me reste simplement à remercier toutes les personnes ici présentes, déjà pour leur présence, les personnes qui sont en ligne ici, l'INP bien sûr, Charles Personnas, président, directeur de l'Institut, toute la direction des études, et en particulier également Émilie Mom et Laurent Brunel qui nous ont beaucoup aidés à la préparation de cette journée. Également nos partenaires, le ministère de la Culture, le laboratoire Héritage, également les élèves. Alors attention, c'est parti. Adèle, Agnès, Aurélie, Bastien, Céline, Camille, Natacha, Paul, Christine, Damien, Virginie, Patricia, Clémence, Ariel, Hélène, et évidemment tous les autres qui nous ont aidés à hauteur de leurs moyens, mais en tout cas systématiquement avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'aide. C'était vraiment formidable. Le bureau ici présent, Axel et Benjamin à la trésorerie, au secrétariat Charlotte et Marianne, et à la présidence Fiona Lune, qui s'y présente. Ça va? Oui, très bien. La bouteille, bravo. Et Michel Perrot pour sa présence. Merci. Merci pour votre présence et à bientôt. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec la nouvelle promotion McDonnell-Ours.